France en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission.
Le printemps sera-t-il silencieux ? Se demandait Rachel Carson en 1962. À l'évidence, à l'époque, un poison se répandait partout dans les eaux vives. Le DDT, dichlorodiphényltrichloroéthane. Molécule inventée pour développer les rendements agricoles, s'était infiltré partout. Le pesticide s'était propagé jusque dans l'Arctique, et voilà qu'il empoisonnait les oiseaux. Tous les oiseaux disparaissaient d'une étrange maladie. La coquille de leur œuf fragilisée se brisait, empêchant toutes les naissances. Les oiseaux allaient mourir, et ce n'était encore que le signe avant-coureur des prochains ennuis à venir. La planète intoxiquée par les pesticides devenait soudain en sursis. Rapidement, le problème fit le tour du monde, et on se décida à interdire le DDT. Il fallut attendre 1970 et même 1984 pour la Grande-Bretagne, mais le toxique fut enfin prohibé. Le mal pouvait encore être jugulé. En interdisant tout de suite l'insecticide, la situation pouvait être rattrapée. Oui, en effet, les taux de DDT finirent par diminuer progressivement. Aujourd'hui, il en reste encore des traces jusqu'au pôle, mais ces faibles reliquats n'intoxiquent plus vraiment la nature. Le DDT n'était cependant que le premier des poisons à venir. L'agriculture mondiale se faisait industrielle. Plus personne n'allait reconnaître ces nouveaux paysans dont la modernité se réduisait à une destruction aveugle des insectes et des plantes dans un darwinisme naïf, mais qui se croit toujours vainqueur. C'est à partir du Jurassique que quelques espèces apparentées aux dinosaures théropodes se glissèrent dans le ciel. Tout d'abord, la plume apparut. Quelques plumes. Pour faciliter la séduction des femelles amoureuses. Et puis un jour, emplumés sur les membres, un ancêtre ou deux se mirent à courir et ils s'envolèrent, comme emportés par les plumes. La plume constitue encore une exaptation, c'est-à-dire un caractère apparu à travers une première fonction, la séduction amoureuse, et qui ensuite fut utilisée pour autre chose. Les oiseaux devinrent volants. Ce fut le début d'une incroyable aventure évolutive, colonisant l'ensemble de la planète, depuis les boisements de Bretagne jusqu'aux toundras arctiques, des forêts d'Amazonie jusqu'au désert du Kalahari et des grandes plaines américaines jusqu'aux plus petites îles australes. Les oiseaux sont partout, diminuant les invasions d'insectes, réduisant les populations de petits rongeurs et transportant des graines dont ils font des forêts. Alors, était-ce possible qu'en quelques décennies seulement, de capitalisme industriel, des groupes zoologiques entiers risquaient de disparaître. En 1989, le Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux, le CRBPO du Muséum national d'histoire naturelle à Paris, lança un vaste programme de suivi temporel des oiseaux communs. Le temps de mettre en œuvre un protocole scientifique standardisé et d'appeler au bénévolat des ornithologues de partout, et les populations d'oiseaux furent comptées, étudiées et suivies. Il faut un long suivi pour faire émerger des tendances. Mais les scientifiques durent constater que les résultats obtenus en 2013 étaient apparemment l'indice du début d'une nouvelle catastrophe. Les populations d'oiseaux montraient un déclin étonnant et régulier. Les oiseaux étaient en train de mourir. C'est cette constatation du muséum que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui avec mes deux invités ornithologues. Car enfin, si les oiseaux disparaissent, c'est bien que notre planète étouffe sous le développement intensif des productions agricoles et d'autres termes du capitalisme. Et sur Radio Libertaire, cela fait longtemps que nous demandons qu'un autre monde soit possible.
Vous êtes sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, une radio associative sans maître. Et nous écoutions The Village Stompers, The Bird of Bleecker Street.
Bonjour à vous. En déambulant dans les bois et les champs, ou même en se promenant en ville, il est bien rare de ne pas les rencontrer. Les oiseaux viennent et repartent, et partout ils sont là. Pourtant, d'une année à l'autre, le nombre des oiseaux varie. Ils changent au gré des saisons et des années. Ces fluctuations sont-elles périodiques ou bien annoncent-elles une tendance irréversible à long terme? Que deviennent nos oiseaux communs? Que dire? Le printemps sera-t-il silencieux? Voilà une question que le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris vient de rendre publique. Les oiseaux communs montrent une régression inouïe de leurs effectifs. Comment comprendre ce déclin? Eh bien, pour parler de cette situation, je reçois aujourd'hui deux naturalistes, des ornithologues de la Ligue de la protection des oiseaux. Des gens qui écoutent et identifient les oiseaux. On pourrait penser que leurs activités se bornent à contempler la nature et ses beautés, quelque chose de simplement bucolique. voire à vanter les mérites de l'écologie. Mais non, nos deux naturalistes ne font pas que regarder les petits volatiles de nos campagnes. Ils font de la recherche participative, de la vraie recherche scientifique, en assurant le suivi des oiseaux communs. Bonjour, Reine Dupas. Alors, Reine, vous avez observé beaucoup des secrets de la nature. Vous êtes une naturaliste, quelqu'un qui a appris à connaître la faune de nos régions. Et vous connaissez bien nos oiseaux communs. Mais comment devient-on ornithologue? Quand est-ce que ce virus de l'observation naturaliste vous a pris?
Ça remonte à il y a beaucoup d'années. Un petit déclenchement, le besoin d'ailleurs d'aller dans la nature. Et on se prend au jeu de découvrir oiseaux.
Il y a des oiseaux qui vous ont plus particulièrement frappé dès le début?
Les oiseaux colorés, c'est sûr. Comme le chardonneret, j'ai quelques souvenirs. Là, c'était avant que j'observe vraiment les oiseaux.
Qu'est-ce que le chardonneret a donc de si particulier?
Son masque rouge pourpre.
Il plaît aux dames.
Oui. Et puis après, chaque oiseau a son intérêt. Hein. Moi, je dirais que je suis assez fascinée par les martinets qui vivent constamment...
Un oiseau plus urbain.
Plus urbain et surtout plus aérien.
Oh oui, ô combien, parce qu'il dort en... Voilà. Il vole en dormant. Il dort en volant, comme vous voulez.
Voilà, ouais. Exactement.
Et vous êtes plus spécialisée sur une espèce ou...
Pas du tout. Je suis complètement éclectique. Amatrice, seulement. Et là, c'est vrai que j'assure la coordination du suivi stock pour le département du Maine-et-Loire depuis maintenant 4 ans, je pense.
D'accord, ça fait déjà un bon bout de temps. Alors, vous n'êtes pas venue toute seule. Bonjour, Jean-Claude Baudouin. On vous reçoit aujourd'hui et je suis très fier car vous êtes un des ornithologues très connus, très appréciés. Et quand je fréquentais encore les différents conseils de la biodiversité ou ceux de la faune sauvage, on ne parlait guère de l'ouest de la France sans se référer à vous et à vos travaux. Depuis quand avez-vous éveillé ce besoin de regarder les oiseaux ?
Bonjour. Eh bien, autant que je m'en souvienne, à l'âge de 8 ans, je savais reconnaître à peu près tous les oiseaux qui étaient sur les planches en couleur du Larousse de mes parents.
C'est quelque chose.
Et sinon, je me suis mis à observer systématiquement les oiseaux à la fin des années 50.
Et à chaque fois, toutes les espèces. Oui, il y a une quinzaine d'années.
Et les oiseaux qui, à cette époque-là, m'attiraient le plus, et ils m'attirent encore beaucoup, c'était les rapaces. J'étais vraiment fasciné par les rapaces.
Oui, c'est vrai que
les rapaces diurnes.
Les rapaces diurnes, c'est quelque chose d'important.
Voilà.
Les espèces en particulier ?
À l'époque, je me souviens, j'avais des difficultés à identifier, en particulier la buse et la bondrée. C'est un cas classique, ces deux rapaces qui se ressemblent pas mal, de silhouette. Et le Noël suivant, je me suis fait offrir mon premier Peterson.
Ah voilà, c'est l'ouvrage de référence pour les ornithologues.
Et avec cet ouvrage, là, j'ai commencé à progresser justement dans la détermination buse-bondrée plus facilement.
Et vous avez vu que la buse ne mangeait pas la même chose que la bondrée.
Tout à fait. Voilà.
Qu'est-ce que mange la bondrée?
La bondrée, c'est un rapace spécialiste, spécialisé surtout dans la consommation des couvains d'hyménoptères. Bon, elle peut consommer aussi des amphibiens. Je l'ai vérifié en suivant des nids. Au mois de juillet en particulier, pendant les vacances d'été, à l'époque où j'étais en activité professionnelle.
Et vous couriez la nature.
Voilà, tout à fait.
Et c'est très différent de la buse variable, la tête aussi, physiquement, la queue.
Une tête plus fine, avec des plumes très serrées qui lui permettent d'être protégée des piqûres, des dards.
Et oui, parce que ça se défend. Ça se défend, les guêpes et les abeilles.
C'est ça.
Eh bien, on va revenir à Rennes qui va nous parler un peu plus maintenant de son intégration à la LPO. Alors, c'est une drôle d'association, la LPO. C'est une des associations les plus importantes de France, si mes chiffres sont bons. On dit que ça rassemble jusqu'à 600 000 adhérents, ce qui est à peu près le chiffre que vous devez avoir sur la France entière, moins que ça. Eh bien, j'ai le triste honneur de vous dire que la plus petite association anglaise d'ornithologie en fait 3 millions. Comment se fait-il qu'en France, au pays de Buffon, au pays d'Aubenton, au pays de Lamarck, comment se fait-il qu'en France, l'ornithologie, les associations naturalistes rassemblent si peu de personnes?
Les comptages ne sont pas faits de la même façon de chaque côté du Channel.
De la Manche.
Et en fait, les Anglais comptent pratiquement comme adhérents tous ceux qui passent dans leurs réserves et qui auront payé. Ils deviennent adhérents de fait. Ce n'est ce qui n'est pas la politique de la LPO pour l'instant.
Oui,
peut changer.
Vous
parce
comptez
que,
ceux qui travaillent avec vous, ceux qui viennent avec vous pour de vrai.
Oui, enfin, il y en a qui sont seulement adhérents, qui lisent les publications, mais ou qui vont avoir leur maison en refuge.
Oui, parce qu'il y a quand même tout un ensemble de vocations à travers la Ligue de protection des oiseaux, qui sont de rassembler des gens qui vont avoir une autre vision de la nature, qui vont être capables de mettre, comme tu le disais, en refuge un territoire donné, etc.
Et donc là, en France, à ma connaissance, on n'est pas loin de 50 000 adhérents.
50 000, mais on est loin des 600 000 annoncés.
Voilà.
Et donc, tu fais partie de ces 50 000 petites mains.
Voilà, depuis déjà pas mal d'années. Donc la LPO France, c'est l'association nationale à laquelle on participe, même si localement, on a aussi une autre LPO qui, en Maine-et-Loire, s'appelle LPO Anjou. Donc, rassemble les gens qui veulent favoriser les oiseaux, la nature en général, puisque ouais. Maintenant, notre objet...
Oui, vous travaillez sur les chiroptères aussi, les chauves-souris.
C'est toute la biodiversité. Et donc, ça rassemble à la fois les gens qui vont mettre en refuge leur jardin ou leur balcon. Et puis des naturalistes qui vont participer à des enquêtes nationales souvent, comme le STOCK, mais aussi, il y en a quelques autres, ça peut être aussi des atlas.
Oui, c'est vrai, il y a aussi des atlas, c'est-à-dire des répartitions des espèces en fonction des milieux.
Voilà.
À ce propos d'ailleurs, Jean-Claude Baudouin, vous avez étudié beaucoup d'espèces dans l'ouest de la France, vous avez suivi ça depuis les années, j'ose pas dire jusqu'où, mais ça remonte à longtemps.
Les années 60,
voilà.
Oui.
Quand est-ce qu'il y a d'espèces d'oiseaux présentes en France et combien plus particulièrement dans l'ouest?
Là, c'est une colle, je dois dire, parce que je n'avais pas révisé ces questions-là.
À une dizaine près.
Oui, disons que je pense qu'il y a au moins 350 espèces de base en France.
Ouais. Hein. Oui, parce qu'il faut différencier les nicheurs, les passagers, les migrants, tout ça. Oui, ce qui fait que c'est quand même bien représentatif.
Entre les nicheurs réguliers, les hivernants, les migrateurs, bien sûr.
Alors, on va parler du suivi temporel des oiseaux communs, Jean-Claude. Et en fait, qu'est-ce que c'est qu'un oiseau qu'on qualifie de commun? Alors, moi, je reconnais bien le chardonneret, le troglodyte mignon, ou encore même le bouvreuil pivoine. Mais quand on commence à parler du serin-cygni, du pouillot siffleur, c'est quand même des espèces moins connues dans nos campagnes. Et si je me mets à dire cochevis huppée ou phragmite des joncs, j'ai bien peur que beaucoup de gens me regardent de travers en me demandant qu'est-ce que ces oiseaux-là peuvent avoir de commun. Qu'est-ce qu'ils ont de commun, les oiseaux communs?
Alors les oiseaux communs, ce qu'on peut dire, disons, dans l'acceptation qui est faite par le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est des oiseaux qu'on rencontre régulièrement dans la plupart des habitats de notre pays.
C'est-à-dire ceux qu'on voit tous les jours autour de nous?
Voilà. Ça peut être la pie, la corneille, le jais, le moineau domestique,
Et donc le cochevis huppé ou la phragmite des joncs, on les voit pareil que le...
On peut pas dire que ce sont effectivement des oiseaux communs parce que ce sont des oiseaux qu'on va qualifier de spécialistes, c'est-à-dire qui sont inféodés à des habitats particuliers.
Donc il faut être dans ces habitats pour pouvoir
les contacter. Oui.
Voilà. Je suppose, Rennes, que vous vouliez être un jour réintégré dans une nouvelle espèce. Est-ce que vous imagineriez de redevenir un troglodyte mignon ou
Non, je pense pas.
Non,
moi, ce serait plutôt une sterne ou quelque
quand même,
chose comme ça.
Un grand voyageur.
Ouais, voilà, un grand voyageur.
Alors revenons à ce suivi STOCK. On va s'intéresser davantage à ce programme, ce suivi temporel des oiseaux communs. L'objectif, c'est de fournir une estimation des tendances démographiques des passereaux les plus communs de nos campagnes. Ce sont des programmes qui existent que ici en France ou est-ce qu'ils sont développés un peu ailleurs?
C'est développé ailleurs puisque là, les données recueillies en France sont retransmises à l'échelle européenne.
C'est à l'échelle européenne. Et après, en fait, on analyse les résultats à l'échelle française dans un premier temps et on compare ça avec d'autres pays.
De toute façon, la France analyse ses résultats de ce programme STOCK, donc suivi temporel des oiseaux communs, à l'échelle française, qui est l'échelle pertinente pour les...
Ça veut dire que c'est une science participative auquel donc vous participez
voilà.
Et que vos petites données à vous se retrouvent après à un niveau européen pour savoir un peu ce que deviennent ces braves oiseaux.
Voilà, et on peut dire que ce sont des enquêtes qui reposent essentiellement sur de la donnée bénévole, de volontaire. Il n'y a pas d'argent public mis dedans... Ce ne sont que des bénévoles
qui travaillent à cette observation. Voilà.
Le groupe de métal russe Arkona nous interprétait Stanka Nastenku. Nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, une radio associative pas comme les autres. Une radio sans maître, sans dieu et sans publicité. Et toujours à la recherche des oiseaux communs.
Un conte de Haute-Bretagne nous raconte que la huppe et le pivert passaient pour être grands amis. Ils décidèrent de partir ensemble pour une grande migration vers la Bretagne. Mais si la huppe volait bien, le pivert souffrait avec ses petites ailes trop courtes. Éreinté, il risquait sans cesse de s'endormir, menaçant de tomber en mer. Devant sa fatigue, la huppe se mettait à crier « Oup, oup, oup !» afin de le maintenir vigilant durant tout le voyage. Grâce à ce secours, le pivert atteint la Bretagne. Et pour exprimer sa gratitude, il décida « Je vais creuser des trous dans les arbres pour toi et tu pourras y loger tes petits. » Et aujourd'hui, la huppe fait toute seule le grand voyage. Mais aussitôt arrivée, elle appelle tout de suite son ami le pivert en faisant « oup, oup, oup ». Alors ce conte de Haute-Bretagne nous ramène évidemment sur le suivi des oiseaux communs, même si la huppe n'est pas forcément l'oiseau le plus commun qu'on ait dans l'Ouest. Et je suis toujours avec Reine Dupas et Jean-Claude Baudouin, deux ornithologues qui se sont consacrés à ce programme de suivi des oiseaux temporels. En effet, en 1989, le CRBPO, avec la caution scientifique du Muséum et le soutien financier du ministère de l'Environnement à l'époque, a mis en place un programme dit « suivi temporel des oiseaux communs ». C'était principalement pour essayer d'évaluer en fait quelle était la présence de ces animaux. Il s'est appuyé sur le réseau de bagueurs et d'ornithologues bénévoles. Et donc, c'est devenu le programme STOCK, le programme STOCK Capture, etc. Et donc, avec Reine Dupas et Jean-Claude Baudouin aujourd'hui, nous allons essayer d'analyser un peu ce qui permet en fait de parler de ce suivi particulier. Alors Reine, qu'est-ce qui vous a décidé à intégrer cette équipe STOCK et comment se passe ce suivi ?
Alors, le programme STOCK, c'est intéressant quand on est ornitho parce que ça emmène dans des coin de campagne ou de territoire où on n'aurait jamais l'idée d'aller observer les oiseaux. Puisque le jour où on décide d'intégrer ce programme, le muséum va procéder à un tirage aléatoire d'un carré de 2 km sur 2 km.
Alors, on viendra tout à l'heure précisément sur le protocole. Là, ce qui compte plutôt, c'est, on va dire, votre intérêt à vous dans cet élément-là. Parce que vous promenez sur des petits endroits de 2 km sur 2 km, ça fait partie du protocole lui-même. C'est d'ailleurs assez rigide, non ? Ça vous plaît toujours, ça, d'y aller ?
Bah, il faut le faire. Et puis, en même temps, du coup, chaque année, c'est intéressant
de retourner. Vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner avant ?
Oui, il vaut mieux. Et de retourner voir comment évolue un paysage d'année en année, enfin, et puis au cours du printemps, puisque moi je fais 3 passages, mars, avril et mai.
Oui.
Et donc on voit se vivre vraiment un petit coin de campagne avec parfois de très bonnes surprises au niveau ornithologique, d'autres passages où c'est tristounet, où on éventuellement peut même avoir un peu de conflit avec des agriculteurs.
Voilà,
ou
c'est
autre.
Quand même passé d'observations naturalistes qui font plaisir à un travail scientifique beaucoup plus rigoureux. Donc on va reparler tout à l'heure du protocole. Mais avant, je voulais reparler avec Jean-Claude Baudouin de ce problème particulier de ce que sont les oiseaux communs.
Oui, ce qu'on peut préciser, c'est dans le sens, disons, du muséum, du CRBPO, oiseaux communs, ça signifie des oiseaux qui sont quand même suffisamment abondants pour fournir donc des données à l'analyse qui soient suffisamment robustes avec finalement un protocole d'investigation qui est quand même assez léger.
Oui, parce qu'il faut évidemment que ça se répète régulièrement, les observations, pour qu'on puisse en tirer après un traitement statistique.
Tout à fait. Si on a des espèces qui ne sont pas suffisamment abondantes, on n'aura pas, avec ce protocole-là, des données dont l'interprétation peut être significative. Quoi.
Alors, ce travail de suivi des oiseaux communs s'est bâti grâce à un immense réseau d'ornithologues. On a dit tout à l'heure que c'était des bénévoles pour la plus grande part. Et en France, on appelle ça de la science participative. Qu'est-ce qui t'a fasciné dans le fait de faire de la science participative ?
Eh bien, quand j'ai commencé à participer au programme STOCK, à ses tout débuts, en 1989, c'est parce que on avait enfin à disposition un protocole qui était quand même pas trop lourd et qui permettait d'apporter, disons, une connaissance pour mesurer un peu les évolutions donc des espèces communes dont on avait déjà confiance que beaucoup commençaient à décliner.
C'était déjà un élément de régression qui pouvait se voir. Et donc, pour mettre en place ce protocole, ça nécessitait évidemment une répétition sur la même base. Alors, Rennes, tu as déjà un petit peu commencé à parler de ce protocole. Il faut se soumettre en fait à une méthodologie qui, bien que simplifiée, reste quand même assez contraignante. Et puis, il faut la répéter à la même période, chaque année.
Bah, c'est une visite printanière que j'intègre dans mon programme. Chaque année, effectivement.
Et donc, sur place, tu te déplaces, tu as un itinéraire particulier ?
Alors, on se déplace. Alors, ça continue d'être effectivement contraignant. Dans ce carré de 2 km sur 2 km, on choisit 10 points d'écoute qu'on devra respecter scrupuleusement à chaque passage.
Donc, le point d'écoute, c'est un endroit où tu te situes, où tu entends un oiseau, et c'est toujours le même ?
À chaque
ou au contraire,
point...
c'est dès que tu entends un oiseau, tu t'arrêtes ?
Non. On fixe les 10 points en essayant en plus d'avoir une représentation de tous les habitats naturels
de ce secteur.
De ce secteur. Et après, on se fait son itinéraire. À chaque point, on reste 5 minutes où là, je note ce que je vois, ce que j'entends. Et je reprends la route d'un point à un autre. Et cela... toujours dans le même ordre.
D'accord, donc ça veut dire que la fixité des emplacements, le nombre de points et le nombre et les dates et les durées où tu y vas à chaque fois, tu essaies de les garder le plus constant possible d'une année à l'autre pour qu'on puisse avoir en fait une référence d'année en année.
Voilà, c'est une des règles, l'heure, le jour, les conditions météo, mais ça c'est bien difficile quand même.
Oui.
Mais on doit refaire les passages toujours dans les mêmes conditions et ça veut dire que c'est toujours le même observateur.
Forcément le même observateur.
Voilà.
Est-ce que tu prends des mesures de la météo, de la température, ou des choses comme ça, chaque
Alors,
observation ?
On note, je dois dire qu'actuellement, dans le système de saisie qu'on a maintenant, il ne se préoccupe plus trop de nous demander, mais il y a quand même le fait de savoir si c'est nuageux, visibilité, s'il y a du vent, parce que le vent est très gênant en fait.
Oui, ça peut modifier l'écoute des oiseaux.
À la fois l'écoute et puis les oiseaux ne bougent pas, enfin...
Alors évidemment, ce travail particulier fait que on se base principalement là sur le stock point d'écoute, mais il y a d'autres stocks. Il y a le stock aussi avec les captures, recaptures. Juste un petit mot pour dire que ça existe.
Oui, le stock capture. Donc c'est une technique qui est plus lourde. Hein, c'est réalisé déjà par des bagueurs. Hein.
Oui,
donc les bagueurs
agréés, évidemment.
C'est des gens qui sont agréés par le CRBPO. Et ça suppose donc d'avoir un habitat qui s'y prête et qui évolue peu au fil des ans. En Maine-et-Loire, j'ai vu pratiquer donc un stock capture dans des boisements assez jeunes, pendant une période de quelques années. Au-delà, l'évolution faisait que les conditions avaient suffisamment changé pour que ce soit plus difficile à interpréter. Et sinon, comme pour le stock, disons, d'écoute, il y avait donc, je pense, à peu près trois périodes de capture entre le printemps et le début de l'été.
Est-ce qu'on a une idée du nombre de données collectées au niveau national ? Je connais les données pour les points de capture, puisque ça a été donné sur les sites. Hein. On sait qu'il y a pas loin de 230 000 individus qui ont été bagués, collectés, sur 256 stations différentes. Mais est-ce qu'on connaît un petit peu le nombre de points d'écoute ?
Alors,
oui, Irène ?
Je vais peut-être retrouver ça.
Oui.
Donc d'abord, de 2001 à 2014, ce sont 1678 observateurs volontaires qui ont effectué quelque 39 000 heures de terrain sur 2300 carrés qui ont été prospectés en fait au moins une fois sur cette période.
Et ça a tendance à rester stable ou ça diminue d'année en année ?
Je pense que ça a diminué un peu. Enfin, en tout cas,
il y a un manque de motivation chez les ornithologues.
Moins il y aura d'oiseaux, plus...
Oui, c'est vrai que quand on y va
devient,
pour rien, ça
là,
pas.
Ça devient difficile. Et donc, 300 espèces ont été contactées en fait, sur toute cette période. Et c'est 4 300 000 oiseaux qui ont été comptés.
Alors, il peut y avoir parfois peut-être plusieurs fois le même compté dans un
point. Ce qui correspond à 2,7 millions de lignes dans la base de données.
D'accord.
Donc il y a effectivement des oiseaux en plus. Enfin...
Alors quelles sont les espèces les plus contactées ?
Je sais que le pinson est en bonne position, qui se porte pas forcément. Enfin, je regardais. Sa courbe, c'est pas forcément extraordinaire, mais.
Mais en tout cas, on l'entend.
Voilà,
le rossignol Philomène aussi, je crois qu'il est assez facile à être contacté.
Oui.
La bouscarle peut-être, la bouscarle de Séti.
Oui, mais qui n'est pas si fréquente que ça. Enfin, quand on en a.
Alors, s'il faut parler d'oiseaux fréquents, parlons du merle noir.
Le merle noir, c'est sûr.
C'est sûr. Jean-Claude, est-ce que des oiseaux communs comme l'accenteur mouchet, le merle noir, sont des oiseaux qui représentent beaucoup dans les points d'écoute ou est-ce que ce sont finalement des oiseaux qui sont répartis de manière assez peu homogène en France ?
Tout dépend des habitats qui sont prospectés dans le cadre du stock. Si on fait des milieux urbains, périurbains, accenteur mouchet et puis merle noir, on va les rencontrer régulièrement. En bocage aussi. Par contre, si on fait des zones ouvertes de plaines agricoles, là, c'est des espèces qui sont généralement quasi absentes.
Oui. En fait, c'est le cas de beaucoup de petits oiseaux qui ont quand même besoin de haies ou de choses comme ça. On va plus trouver des oiseaux qui nichent à terre. Mais on sait que les villes sont aussi très attractives pour de nombreux oiseaux qui vont y trouver refuge et pitance. On voit par exemple la tourterelle turque. Hein, tu parlais du... Tout à l'heure, tu m'en parlais en privé de la tourterelle des bois et de la tourterelle turque, on les voit. Est-ce qu'il y a un suivi en zone urbaine, en fait ? Oui, ça couvre aussi ces milieux-là ou...
Oui, personnellement, moi, j'ai fait un suivi donc, qui était centré sur la ville d'Avrier, donc au nord-ouest d'Angers. Et donc, j'avais peut-être sur 10 points, je devais en avoir 7 en milieu urbain ou pavillonnaire. Et puis, le reste en milieu périurbain.
Alors, on sait que la plupart des oiseaux vont varier d'une année à l'autre et qu'ils peuvent montrer d'importantes variations de leurs effectifs. On sait, par exemple, qu'une mésange est capable d'avoir 6, 7, voire 8 œufs dans son nid. Et ça, jusqu'à 2 ou 3 fois, parfois 4 fois par an pour certaines espèces. Donc, les oiseaux se reproduisent apparemment beaucoup. Il y a donc beaucoup de jeunes à l'envol. Alors, est-ce que la fluctuation des effectifs qu'on observe d'année en année, ça ne serait pas tout simplement dû au fait qu'on ne tienne pas compte de cette reproduction extraordinaire des oiseaux ?
Les populations d'oiseaux communs peuvent enregistrer quand même des variations interannuelles assez importantes. Par exemple, il peut y avoir donc des printemps qui sont assez catastrophiques sur le plan météorologique et qui peuvent entraîner donc une mortalité, disons, qui est supérieure à la normale. Et puis au contraire, je prends l'exemple de l'année 2017, qui était une année donc sèche, fortement ensoleillée. Là, on a eu une reproduction en particulier d'oiseaux insectivores qui était certainement supérieure à la normale.
Et ma maman avait dit oui, un mandarin, un canari. Pourtant maman avait dit oui. On m'appelait le rossignol et je chantais par tous les temps. J'ai acheté la cage vide, un abreuvoir, des graines aussi. Mais l'oiseau n'est jamais venu, mais jamais l'oiseau n'est venu. Pourtant maman avait dit oui. On m'appelait le rossignol. Je chante encore par tous les temps. Et quand je chante certains soirs, seul face à vous sur mon perchoir, je vois toujours la cage vide. Les graines ont-elles au moins fleuri? Au moins les graines.
Alors c'était la cage vide, un oiseau s'est envolé, c'est Reine du Pas qui m'a proposé ça. Pourquoi ?
Alors c'est une chanson de Barbarie, une chanteuse qui est basée à Nantes. Hein, et bon, elle parle de cette chanson, moi je pense que c'est tout son le chant qu'elle porte en elle aussi, hein, puisque c'est un canari, donc c'est un oiseau chanteur.
Et c'est une sacrée voix, en effet. Alors on va essayer de parler un petit peu de cette production des indicateurs par le CRBPO à partir de vos données. La première chose, premier indicateur qui a été donné, c'est, alors je ne sais pas qui des deux va pouvoir le mieux parler de ça, mais c'est un indicateur sur la spécialisation des espèces. Alors d'abord, il y a les espèces dites généralistes. Je crois qu'ils ont considéré qu'il y avait une quinzaine d'espèces généralistes entre le pigeon ramier, la fauvette à tête noire. C'est quoi une espèce généraliste ?
Eh bien, c'est une espèce finalement qui a une écologie assez large, hein, et qui est adaptée à une grande variété d'habitats.
On peut dire ça par exemple d'animaux comme les mésanges ?
Oui, les mésanges, le merle noir, hein, qui à l'origine est une espèce quand même d'origine forestière, hein. Mais comme beaucoup d'espèces, hein, qui peu à peu se sont acclimatées à nos jardins, nos parcs, et qui sont devenues...
Des petits morceaux de forêt, quoi, finalement.
Tout à fait, ouais. Qui sont devenues des espèces familières, hein, ce qui n'était pas le cas, je crois, encore au début du 19e siècle.
Et puis il y a le pinson des arbres, bien sûr, bien qui sûr. Est un oiseau bien connu. Alors, à côté de cette espèce, de ces espèces généralistes, il y a des espèces qui vont être spécialistes. Donc, on parle de spécialistes des milieux agricoles. C'est le cas du vin OUP. Je vois sur ma liste qu'il y a également la buse variable, la perdrix rouge. Quelles sont les autres espèces encore ?
On peut citer une des plus connues, c'est l'alouette des champs.
L'alouette des champs.
Ouais, qui porte bien son nom.
La linotte aussi, je vois ça.
La linotte, oui. Elle est souvent appelée linotte des vignes, ce qui indique quand même une préférence pour certains types de cultures. On ne la trouve pas, par exemple, dans les champs ouverts comme l'alouette des champs, justement.
D'accord. Et puis on a notre cochevie huppée, qui est donc une forme d'alouette, c'est ça ?
Oui, tout à fait, hein, qui est une espèce qui est liée à des habitats relativement secs, avec, disons, une végétation assez rase et lacunaire. Hein. Mais ça l'a amené des fois à occuper aussi, curieusement, des habitats qui n'ont plus rien à voir avec le milieu agricole, puisqu'on peut la trouver dans les zones d'activité.
Hein, ah oui.
Où il y a des grandes étendues dégagées. Et aussi sur des chantiers.
D'accord. On cite également des espèces comme la fauvette grisette ou encore le bruant zizi. Moi, j'aime bien le bruant zizi, pas qu'à cause de son nom, il est joli aussi.
Oui, alors le bruant zizi, bah, c'est une espèce, disons, qu'on peut trouver en milieu périurbain comme en milieu agricole. C'est une espèce, il lui faut quand même généralement des arbres, hein, sous forme de haies, le plus souvent. C'est une espèce donc qui niche dans des buissons bas, dans la partie basse des haies.
Des haies, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a un coloris assez joli, hein, il est
oui,
assez sympa.
Le mâle en particulier.
Pourquoi est-ce qu'on l'appelle zizi ?
Alors, c'est une onomatopée finalement, puisque le chant du mâle, c'est un tri zizi.
Voilà. On se demande ce que ça donnerait si on le croisait avec du pouillot véloce, mais bon, c'est autre chose.
Pourquoi pas ?
Alors, il y a également les espèces des milieux forestiers.
Oui.
Alors, bizarrement, il n'y a pas le loriot d'Europe. Dans ce groupe-là, je vois qu'il fait partie des espèces dites généralistes. Moi, j'aurais plutôt classé là, non ? Le loriot, c'est...
Alors, le loriot, au départ, effectivement, mais c'est comme beaucoup d'espèces forestières, il s'est adapté quand même à des milieux qui sont quand même finalement assez éloignés des milieux forestiers. On peut le trouver dans les ripisylves, c'est-à-dire les lignes d'arbres en bord de cours d'eau. Et puis sinon, bah, il a adopté des boisements artificiels comme les peupleraies.
D'accord. Alors qu'en revanche, le pic-épêche, le pic-mar, le pic-cendré, et puis également des animaux comme le roitelet huppé, par exemple, sont eux beaucoup plus typiquement forestiers.
Alors, ils sont typiquement forestiers, c'est-à-dire que c'est en forêt où ils ont leur plus forte densité. Mais là, comme d'autres, beaucoup d'individus de ces espèces sont sortis de la forêt pour s'adapter à des milieux où il y a des boisements réduits dans les parcs et les jardins.
Par exemple, la grive musicienne, on peut la trouver à Paris ?
Ah, certainement, oui.
C'est des oiseaux qui sont capables de supporter les grands parcs parisiens.
Bien sûr, oui, oui. C'est certainement une des espèces qui, par son chant particulièrement puissant, réveille quelques Parisiens tôt le matin.
Tout à fait. Pas le pouillot siffleur.
Alors le pouillot siffleur, c'est une espèce qui est strictement forestière. Il lui faut même un habitat forestier assez particulier, avec des strates inférieures qui soient bien dégagées, un sous-bois qui n'est pas encombré, et on y reviendra parce que c'est une espèce qui est en chute libre,
ouais.
Et qui nous préoccupe beaucoup.
Alors on parlait également du bouvreuil pivoine qui fait également partie de ces espèces forestières.
Alors le bouvreuil pivoine, c'est un peu comme, disons, des espèces forestières qu'on a évoquées, mais qui ont aussi colonisé des habitats, soit le bocage, soit des milieux de parcs et de jardins. Moi, je le connaissais, nicheur, dans les années 70, à la périphérie de Bushmen, hein, en milieu périurbain, dans des grosses haies. Et puis, actuellement, on ne le trouve plus qu'en milieu boisé. Et c'est une espèce donc, dont l'habitat, enfin, dont la population dans tout l'ouest de la France, ouais. Donc, se réduit considérablement. Parce que c'est une espèce à affinité un peu boréale. Hein. C'est une espèce qui préfère des milieux frais, humides. Donc il a tendance à se retirer vers les habitats d'altitude. Hein, et on invoque, entre autres, le réchauffement climatique comme cause de sa régression.
Oui. On va revoir ça un petit peu. Le fait est que des oiseaux comme le rouge-gorge font aussi partie de ces espèces dites forestières, le grimpeau des jardins, etc. Et puis il y a ce dernier milieu, ce sont des espèces dites spécialistes des milieux bâtis, comme la tourterelle turque, l'hirondelle de fenêtre, mais aussi d'autres oiseaux, comme par exemple le martinet noir.
Voilà, qui niche effectivement dans des cavités de bâtiments, dans nos villes, mais, et qui a en plus de plus en plus de difficultés à trouver où nicher.
On le trouve principalement en ville, le martinet, c'est quand même...
Oui. Naturellement, je pense qu'il pouvait nicher dans des falaises.
Oui, à l'origine, c'est probablement une espèce de grande falaise ou de... Ah, je vois que les deux compères sont en train de se concerter. Voilà une espèce difficile. C'est pas du tout le même cas pour des animaux comme la pie bavarde, qui, elle, est présente vraiment partout et qui occupe bien ces milieux bâtis.
Mais d'ailleurs, moi, je l'aurais mise dans les espèces généralistes. Mais là, pourquoi ils l'ont mis dans les milieux
Oui, il y a sûrement des petits critères quand même.
Peut-être d'ailleurs, parce que je disais ça, en fait, dans les campagnes, elle est tellement pourchassée, la pie.
Qu'elle se réfugie plus bordure de ville, qu'elle y trouve des refuges.
Celle qui subsiste, oui.
Est-ce que c'est la même chose pour des oiseaux comme le serin-cygni, par exemple, qui fait aussi partie de ces espèces de milieux bâtis ?
Alors, en ce qui concerne le serin-cygni, si je prends le cas du Maine-et-Loire, bon, c'est effectivement une espèce, surtout des milieux bâtis, parcs et jardins, hein, avec une préférence pour les conifères.
Hein. D'accord, oui.
Et en Maine-et-Loire, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul massif forestier où on peut l'observer.
Ah oui, en effet, donc il n'est quand même pas très, très, très commun ici. Le moineau domestique connaît-il, lui aussi, des fluctuations d'effectifs importants en ce moment, et c'est bien une espèce des milieux bâtis.
Alors, je crois que dans les 15 dernières années, donc, on estime que les populations de moineaux domestiques en Pays de la Loire, et c'est vraisemblablement le même statut au niveau national, ont régressé de près d'un tiers.
Hein. Oui, c'est effectivement important.
Alors là, c'est probablement pour une multiplicité de facteurs. Il y a moins d'habitats favorables, de cavités, comme pour le martinet noir, dans les bâtiments rénovés, etc. L'abondance des chats en milieu urbain, c'est certainement un facteur aussi. Et puis, peut-être aussi des difficultés à trouver suffisamment d'alimentation pour les jeunes.
Alors, on le voit, l'objectif principal des scientifiques, ça va être de produire des indicateurs, c'est-à-dire des éléments qui vont être comparables d'un lieu à l'autre, d'une année à l'autre, pour essayer d'estimer l'état des populations. Donc, à partir de ces degrés de spécialisation ou de généralisme de ces oiseaux-là, on va faire apparaître, par les points d'écoute, des indices d'abondance, des indicateurs d'abondance. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la manière dont sont produits ces indices d'abondance ? Là, je vois, par exemple, sur les diagrammes du CRBPO, apparaît le chiffre entre 0 et 2,5 normalement. On voit que chez le pipi de Farlousse, par exemple, on est passé du chiffre 1 à 0,3. Donc, il s'agit là d'un indice d'abondance. Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, cet indice d'abondance 1, c'est celui qui avait été obtenu lors des premiers recensements au début de la mise en place du programme STOCK à la fin des années 80. Et l'indice 0,33... Donc c'est celui qui vient d'être obtenu ces dernières années et qui montre que donc la régression est de l'ordre de près des deux tiers à peu près des populations françaises. Quoi.
Et en fait, les résultats du programme STOCK vont être présentés comme cela, espèce par espèce, indice d'abondance par indice d'abondance, sur la carte dite nationale d'abondance relative qui est obtenue par l'indice de variation d'abondance, c'est principalement ça.
Oui.
La cartographie intervient aussi, puisque c'est réparti de manière homogène ou dans l'espace, les points d'écoute ?
Relativement homogène.
Enfin, c'est relativement homogène.
Oui, oui. Ouais. Là, il y a des secteurs qui sont plus prospectés quand même, hein, où il y a un peu plus de carrés suivis. Mais il semblerait que globalement, on arrive à avoir des résultats...
Et donc,
pertinents
les
pour
trois points d'écoute qui sont faits dans l'année, Rennes, sont à ce moment-là moyenné pour fabriquer un indice d'écoute annuel, c'est ça ?
J'imagine. Enfin, et d'ailleurs, ce sont d'abord deux points d'écoute. Moi, j'en fais trois.
Trois.
Mais il y en a un facultatif.
D'accord.
Le mois de mars qu'on a rajouté, c'est justement pour éventuellement contacter des espèces qui chanteraient un peu plus tôt en raison du réchauffement climatique. Et qu'on risquerait de ne pas
de rater
autrement. Voilà.
Et alors face à ce problème, il y a également donc des tendances qui vont être définies. Je vois qu'il y a plusieurs tendances qui sont développées. On parle de déclin, d'augmentation, de non significatif. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur comment sont mesurées ces différentes tendances ?
En ce qui concerne les Pays de la Loire, là, une analyse des tendances a été conduite sur la période 2000-2015. Hein. Et les espèces donc qui sont considérées comme présentant un fort déclin sont des espèces donc qui ont, sur cette période-là, connu un déclin qui est supérieur à 50%.
Ah d'accord. Après, au-dessous de ça, on parle de diminution, si ce n'est pas aussi important.
On parle de déclin modéré. Et puis, il y a des espèces qu'on peut considérer comme stables, voire même en augmentation, sur la même période.
D'accord. C'est-à-dire que tous les oiseaux ne sont pas en déclin. Il y a des espèces qui s'en sortent plutôt bien. Des espèces, par exemple
Le cas le plus spectaculaire, c'est celui de l'espèce phare, disons, en termes d'espèces généralistes, c'est le pigeon ramier. Je crois que depuis le début du stock, l'augmentation de la population française, c'est environ 200%.
Ah oui, donc ça a carrément doublé, quoi. Ça a vraiment augmenté. Alors que d'autres oiseaux communs, comme l'accenteur mouchet, eux, vont présenter un déclin plus modéré.
Oui, c'est le cas. C'est qu'il faudrait avoir le chiffre sous les yeux. Je ne m'y attendais pas, je suis désolé. Je suis désolé, je ne sais pas si...
Donc c'est un petit oiseau de nos campagnes qui est très répandu, hein, qui est largement répandu. C'est probablement l'un des oiseaux les plus communs qu'on ait ici en France. Hein.
Oui, et qu'on peut dire très méconnu, en fait.
Très méconnu, oui. Hein. Parce qu'il passe inaperçu, parce qu'il chante dans les haies, il se cache.
Il chante bien, pourtant, et puis même assez abondamment, hein, si on veut. Mais c'est un petit oiseau qui a un petit air de souris, si on veut. Il est tout gris, il vit surtout à terre. Et les gens l'ont dans leur jardin, et je pense qu'il l'appelle un moineau. Hein,
tout à fait, souvent ils le confondent. En fait, on sait que, par exemple, une espèce comme le troglodyte mignon connaît plutôt une augmentation de ses populations, même si ça reste quand même relativement modéré. En revanche, ce n'est pas le cas du tout du chardonneret élégant, qui lui connaît en fait probablement un grand déclin sur l'ensemble de l'Europe.
Oui, en ce qui concerne la tendance du chardonneret élégant est effectivement à une diminution forte. Hein. Depuis le début du stock, c'est environ en France moins 55%, le taux de diminution. Et en Pays de la Loire, c'est moins 62% depuis le début des années 2000.
Ouais, c'est énorme. On retrouve probablement les mêmes tendances avec des oiseaux comme le verdier.
Voilà, c'est ce qui semble caractériser donc, des espèces dont le régime alimentaire est principalement granivore.
D'accord. Donc c'est principalement sur ces granivores qu'on va avoir cet état-là. Ça ne concerne pas les mésanges, qui, elles, sont capables peut-être de mieux s'adapter.
Oui, puis elles sont quand même, je dirais, elles ont un régime alimentaire beaucoup plus varié. Hein.
D'accord. Alors qu'en revanche, on a plus de déclin chez des oiseaux comme les petites fauvettes, la phragmite des joncs, par exemple.
Alors pour le phragmite des joncs, les causes sont peut-être moins bien cernées, parce que c'est une espèce quand même spécialiste, hein, qui habitent certains types de marais. Hein, et c'est... Alors ça peut être d'une part donc, la régression de certains types de marais qui lui conviennent, mais d'autre part, c'est un migrateur transsaharien qui hiverne dans les zones humides, en particulier de l'Ouest africain. Et là aussi, donc, pendant le trajet migratoire, selon les années, les périodes de sécheresse ou non, il peut y avoir une mortalité plus ou moins importante. Hein, et puis il y a probablement aussi des atteintes sur les habitats des quartiers d'hivernage africains.
Et puis, on a le pouillofitis, dont le déclin est tout à fait alarmant. Alors, c'est un petit oiseau commun, normalement.
Alors, en Maine-et-Loire, disons, avec le recul qu'on a, qui remonte, on dira avec précision, à la fin des années 60, c'était un oiseau qui était surtout présent au nord de la Loire. Le Maine-et-Loire se trouvait sur la limite méridionale de l'espèce, qui montre que c'est une espèce qui a quand même des affinités, on dira septentrionales. Hein. Une espèce qui est très abondante, par exemple, en Laponie, en Écosse. Et à partir des années 80, on a constaté donc un déclin de plus en plus important. Et on a l'impression que l'espèce, bon, sans en être totalement certain, mais elle est quasi éteinte depuis 4 à 5 ans en Maine-et-Loire, en tant que nicheur.
Et en France, les effectifs sont aussi
très... Tout à fait. C'est une tendance générale en Europe de l'Ouest.
On va retrouver un peu la même chose avec des oiseaux comme le gobe-mouche gris aussi, qui est en plein déclin un peu partout en Europe.
Tout à fait. Et là, j'ai pas lu, disons, d'explication précise sur les causes de son déclin. C'est un insectivore, hein, qui est un migrateur qui hiverne au sud du Sahara. Et on peut craindre que ce soit aussi sur les quartiers d'hivernage que la mortalité, que les facteurs de mortalité soient les plus importants sur son cycle annuel.
Thank you.
C'était Ambiance de Géorgie, des enregistrements de Christian Goyot en 2007. Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, et dans une émission faite pour les cortiquets du bulbe, Science en liberté.
Toujours à la recherche de ces oiseaux communs qui diminuent dans nos campagnes, alors nous avions parlé de pas mal de petites espèces, mais on a aussi des espèces plus particulières, comme par exemple le pique-épêchette, qui lui aussi semble connaître un déclin plus qu'alarmant.
Oui, alors c'est quand même difficile d'en être certain, dans la mesure où c'est une espèce qui a toujours des densités très faibles, hein, et on ne peut pas dire que les données stock soient vraiment puissantes pour apprécier donc ces fluctuations.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la tendance qui est présentée est basée sur des petits effectifs.
Voilà.
Parce que c'est une espèce très spécialisée aussi.
Oui, c'est ça, et qui a donc des densités très faibles.
C'est une espèce qui vit principalement sur les arbres forestiers.
Alors, c'est une espèce donc à l'origine forestière. Elle fréquente les ripisylves. Elle apprécie du fait que c'est un pic très petit, taille d'un moineau, avec un bec faible. Donc, pour creuser des cavités ou rechercher des bois, il recherche les bois tendres, hein. Voilà, les bois blancs. Et il peut fréquenter aussi des vieux vergers.
D'accord. Oui, c'est une espèce adorable, hein. On l'aime bien, le pique-épêchette, même s'il est effectivement difficile à observer. Alors, une espèce qui s'observe facilement, y compris en ville, c'est la tourterelle turque. En revanche, la tourterelle des bois connaît, elle, un déclin tout à fait différent.
Oui. Oui, c'est deux cas qui sont radicalement opposés. La tourterelle turque, elle doit son nom au fait que, disons, au début du XXe siècle, elle était présente essentiellement au Proche-Orient. Elle a gagné l'Europe à travers la Turquie et elle a progressé ensuite de façon spectaculaire vers l'ouest. La France a été atteinte, disons, dans l'est vers les années 50. Les premiers signalements en Maine-et-Loire, ça remonte au début des années 60. Ensuite, elle a poursuivi sa progression vers le sud-ouest et puis elle est passée en Afrique du Nord, si bien qu'elle a fait le tour de la Méditerranée.
Ah, d'accord. Et c'est une espèce qui a été attirée chez nous par le développement peut-être des cultures.
Voilà, c'est ça. Des cultures qui l'ont favorisée, par exemple le tournesol en particulier.
Oui. Alors que la tourterelle des bois, qui est celle qui est, qu'on chasse quand on fait la chasse à la tourterelle, la petite tourterelle qui a un collier noir assez visible autour du cou, est une espèce, elle, qui connaît un déclin
marqué. Oui, c'est impressionnant. Moi, dans les années 60, je la trouvais très commune dans les zones agricoles, le long des routes, etc. Bah, c'est terminé. Alors, il y a eu un premier coup d'arrêt, sur ces populations. Suite aux sécheresses des années 70 et 80 au Sahel où elle hiverne. Et la situation là-bas s'est quand même mal rétablie. Il y a moins de points d'eau favorables. Il y a pas mal de boisements qui ont disparu, qui lui servaient donc pour s'abriter sur ses quartiers d'hivernage. Et puis d'autre part, elle a été longtemps aussi victime de pratiques de chasse au printemps, qui étaient tout à fait...
Quasiment du braconnage.
Voilà, quasiment du braconnage, hein, sur les côtes du sud-ouest de la France. Et elle est toujours, malgré tout, donc considérée comme une espèce gibier. Et c'est vrai qu'elle a très fortement décliné.
Alors oui, on connaît bien sa chasse dans le sud-ouest, hein, principalement, de la France. Et c'est une tourterelle qu'on ne voit pas tellement en ville, en revanche.
Non, c'est une espèce qui est essentiellement campagnarde.
Tout à fait. Alors les oiseaux communs vont donc connaître ce déclin, on le sent maintenant. De nombreuses espèces voient les effectifs même carrément s'effondrer. Pour la tourterelle des bois, c'est près de 40% des effectifs, c'est à peu près ça?
Alors la tourterelle des bois, actuellement, moins 49% dans les pays de la Loire, c'est à peu près
le chiffre national.
Le chiffre national, ouais. À 1% près.
Oui, tout à fait. Alors, les publications scientifiques pointent principalement un facteur qui semble majeur pour parler de l'affaiblissement des populations d'oiseaux. Ce sont les modifications du climat qui sont engendrées par les gaz à effet de serre. Ce réchauffement entraîne un décalage du calendrier et lorsque les œufs éclosent, il semble que les chenilles, qui sont déjà devenues papillons, eh bien, se sont envolées. Et donc, aujourd'hui, la nourriture arrive trop tôt et les oisillons n'ont plus rien à se mettre sous le bec. Est-ce que c'est vraiment l'agriculture intensive qui a joué ce rôle principal dans la régression? Ou est-ce que c'est le réchauffement climatique?
Pour ce qui concerne, disons, les espèces qui se reproduisent en France, je pense que l'impact est plus, disons, de l'agriculture intensive que du réchauffement climatique. En particulier, le décalage, il a été démontré quand même entre l'apparition des proies et puis le besoin d'alimentation des jeunes au nid. Il a été démontré que pour un petit nombre d'espèces insectivores pour le moment.
Donc en fait, on a quand même d'autres facteurs qui sont susceptibles d'être responsables, mais pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'analyse au niveau national.
Parce qu'on peut dire quand même, c'est que actuellement, bon, les espèces forestières, les spécialistes forestiers, la diminution est faible, de l'ordre de 3% sur ces 15 dernières années au niveau national. Les généralistes, elles, ont plutôt tendance à augmenter, plus 19%. Et celles qui sont spécialistes des milieux agricoles, moins 33%. Oui, donc c'est clair quand même que c'est essentiellement dans les milieux agricoles que l'effondrement des populations est le plus marqué.
Oui, donc c'est quand même principalement dû aux modifications des pratiques agricoles. L'avènement de l'agriculture biologique dans nos campagnes est pour l'instant trop modeste pour réussir à enrayer une telle tendance.
Oui, c'est ce qu'on peut dire. Je pense, d'après ce que l'on constate, entre autres en Maine-et-Loire et ailleurs, les milieux agricoles où l'impact, disons, des pratiques est le plus fort sur les oiseaux nicheurs, c'est certainement donc les plaines à dominante céréalière. L'évolution du paysage tend vers une monotonie et une simplification extrême.
Et ça s'accompagne en gros de la destruction d'habitat. Voilà. Et c'est ça qui aussi peut conduire
c'est ça,
à une
parce
telle...
que on constate donc du fait de la diminution du nombre d'agriculteurs, pour ceux qui restent, un agrandissement des parcelles, un entretien des bordures, les talus sont arasés, les moindres boqueteaux ou haies peuvent avoir disparu. Et de ce fait, on a une simplification paysagère telle que les grandes plaines céréalières sont souvent devenues de véritables déserts pour les oiseaux, à part quelques espèces opportunistes.
Sans compter du problème des insectes sur lequel il faudrait revenir un jour. En tout cas, les espèces qui sont sensibles au réchauffement climatique ont quand même été identifiées à travers cette étude par le Muséum. Je pense notamment à la publication de Giguet sur les capacités de modification face au changement global, ce qui est d'ailleurs paru dans Global Change Biology en 2007. Et dans cette étude, en fait, à partir de 17 espèces, il essaye d'évaluer en quelque sorte un indice du réchauffement climatique sur ces espèces-là, sur ces espèces sensibles. C'est quand même un facteur qui paraît très important. Si je comprends bien, en fait, l'analyse qui a été faite sur plus de 71 espèces, mais en prenant principalement quelques espèces cibles, à partir des données stock, a confirmé que des espèces qui sont spécialistes sont en déclin, comme tu viens de le dire, que d'autres espèces peuvent montrer un déclin encore plus important dans certains milieux particuliers, et que si on met ça en rapport avec une mesure de la niche climatique que ces espèces occupent en Europe, hein, parce que, comme tu le dis, il y a des écologies différentes selon qu'elles viennent d'Afrique ou d'ailleurs, ben ces espèces pourraient plus nicher qu'à des températures maximales, qui sont en fait pour eux difficiles à atteindre. Donc on devrait avoir, pour simplifier, les espèces septentrionales sont plus en déclin que les autres parce qu'il y a ce réchauffement climatique. C'est une analyse, hein, ça, du maximum thermique possible pour certaines espèces.
Oui, mais ça se vérifie bien effectivement en France et à l'échelle des Pays de la Loire. Hein. Je prendrai le cas de deux espèces. Hein. C'est le cas du bouvreuil pivoine qu'on a déjà sans doute abordé et qui est une espèce qu'on est en train de perdre en Maine-et-Loire. Hein. Parce que c'est une espèce qui recherche des boisements frais et humides, et le réchauffement climatique fait qu'elle est en train donc de d'abandonner donc les quelques boisements qu'elle occupait en Maine-et-Loire encore. Et puis sinon, le Pouillophytis, qui était déjà, avant, dans les années 60, déjà en limite méridionale de son aire de répartition européenne, et qui a disparu vraisemblablement donc dans les 5 dernières années.
Est-ce aussi le cas d'un oiseau comme le tarier, des prés par exemple, ou encore le corbeau-freux, qui semble aussi très sensible à ces facteurs climatiques?
Alors en ce qui concerne le tarier des prés, je n'ai pas cette interprétation-là, mais on ne peut pas l'écarter. Ce qu'on constate surtout, et ce qui est mis en général en exergue à propos de la raréfaction des populations de tariers des prés en Europe occidentale, c'est essentiellement l'évolution des pratiques de fauche, parce que c'est une espèce qui est liée à la prairie permanente humide, aussi bien en montagne qu'en plaine. Hein. Et l'avancement des dates de fauche, et puis la mécanisation, le matériel de plus en plus performant lors des opérations de fauche, impactent énormément cette espèce, probablement plus que le facteur climatique.
Alors une manière de mesurer l'impact de ce réchauffement climatique, c'est d'essayer de voir quelle est la différence entre des indicateurs construits par le muséum eux-mêmes, c'est-à-dire une différence entre les espèces qui sont connues pour être particulièrement en déclin et qu'on ne peut attribuer a priori au réchauffement climatique, par rapport aux espèces qui seraient en déclin et qu'on pourrait attribuer à ce problème de variant thermique. Et là, cette publication qui a été réalisée là dans... Alors c'est une citation de Grégory Éal, dans lequel figure évidemment Giguet également, qui est le coordinateur pour la France, hein, si je ne dis pas de bêtises, est paru récemment dans les Plos One en 2009. Et là... A priori, ils annoncent que le réchauffement climatique est finalement le facteur le plus explicatif de ces données particulières. Alors, c'est basé sur des oiseaux, comme on vient de le voir, qui sont quand même, à mon sens, à moi aussi, hein, je suis un peu sceptique sur certains points, qui sont quand même capables probablement de survivre à ça. Je pensais notamment à notre ami le corbeau freux, qui semble quand même être assez présent également dans le sud de l'Europe.
Alors c'est une espèce, disons, qui est d'origine orientale, hein, qui a peuplé donc sans doute assez récemment l'Europe occidentale. Il était quasiment inconnu au XIXe siècle comme nicheur en Maine-et-Loire. À une époque plus récente, il me semble que sa limite méridionale, c'était à peu près la latitude de Lyon. Il a sans doute un petit peu progressé. Donc c'est plutôt quand même une espèce qui a bien progressé. Alors peut-être qu'actuellement, il est en train de subir un coup d'arrêt dans cette progression en relation avec l'évolution du climat.
Alors pour être tout à fait franc, il faut ajouter que les auteurs insistent aussi sur la problématique de la fécondité annuelle de ces espèces qui pourrait expliquer leur déclin à long terme, que les espèces à vie plus courte sont plus sensibles aux modifications du climat parce qu'elles ont une plus grande fécondité, une courte espérance de vie, elles auraient peut-être plus de difficultés à s'adapter à des changements. Est-ce qu'on voit beaucoup chez les oiseaux communs des modifications d'habitat, des capacités à s'adapter à des nouveaux habitats? Je pense à la citelle torchepeau ou encore à d'autres espèces plus urbaines.
En fait, ce qu'on remarque, mais c'est pas récent, hein, ça remonte vraisemblablement à la première moitié du 19e siècle. Il y a quand même, parce que peut-être il y avait un petit peu moins, disons, de pratiques de destruction humaine, de chasse, etc. Et puis probablement aussi l'apparition donc d'habitats urbains ou périurbains. Qui créait, disons, des habitats secondaires favorables à l'espèce avec le développement des parcs et jardins, entre autres. Et donc il y a beaucoup d'espèces qui, peu à peu, se sont infiltrées dans les villes, alors qu'au XVIIIe siècle, c'était un phénomène qui était rarissime, semble-t-il.
Il serait temps que l'homme s'aime, depuis qu'il sème son malheur. Il serait temps que l'homme s'aime, il serait temps, il serait l'heure. Il serait temps que l'homme meure, avec un matin dans le cœur. Il serait temps que l'homme pleure, le diamant des jours meilleurs. Assez, crient les gorilles, c'est assez. Arrêtez votre humanerie. Assez, crient le désert et les glaciers, crient les épines. Que l'homme règne sur le grand vitrail de son front. Depuis les siècles noirs qu'il saigne dans les barbelés de ses fronts. Il serait temps que l'homme arrive sans l'ombre avec lui de la peur. Et dans sa bouche la salive de son appétit de terreur. Assez, assez, crie le ruisseau dans la prairie, crie le granit, crie le cabri. Assez, voici que dans le silence s'élève encore l'immense cri. Délivrez-vous de vos démences, crie l'éléphant, crie le cri, crie, crie le sel, le cristal, le riz, crie les forêts, le colibri, les clématites et les pensées, le chien jeté dans le fossé, la colombe cadenassée. Entendez-le, ce cri immense, ce cri, ce rejet, cette transe. Expatriez votre souffrance, crie les sépulcres et les
Alors, quelle était donc cette musique, Reine ?
C'est une chanson de Claude Nougaro de 1980. Hein, déjà à cette époque-là, ça s'appelle Assez. Et bon, voilà.
C'est un manifeste pour la planète. Alors, à défendre la musique, nous pourrions évidemment laisser les oiseaux chanter. Mais aujourd'hui, une régression préoccupante est à l'œuvre, même chez les oiseaux les plus communs. Il faut évidemment affirmer que l'agro-industrie, la chimie s'insinuent peu à peu dans les espaces marchands, mais aussi dans l'écologie du monde. Et déjà, le silence des oiseaux nous alerte. Alors, nous alerte sur quoi ? Eh bien, nous sommes sur Radio Libertaire à la recherche des oiseaux communs, dont le déclin nous alarme sur les effets du réchauffement climatique également. En effet, ces oiseaux sédentaires, comme la mésange bleus peuvent s'adapter en nichant plus tôt. Mais pour les migrateurs qui partent hiverner en Afrique, c'est une autre affaire. Imaginez par exemple le pouillot siffleur. Il est en Afrique. Il n'écoute pas la radio. Il ne sait donc pas qu'il fait plus doux ici. C'est ainsi que Philippe Dubois nous raconte son histoire. Donc, notre ami le pouillot siffleur ne change pas sa date de retour. Et lorsqu'il arrive ici, il s'aperçoit qu'il y a moins à manger qu'avant. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est qu'un jour, ils reviennent un peu plus tôt. Ils auraient plus de chances de réussir leur reproduction. Alors en fait, il semble que les hirondelles le font. Elles reviennent un petit peu plus tôt.
Je pense, oui, un petit peu. Mais parfois... Comme
Reine Dupas est en train de lorgner sur Jean-Claude Baudouin, ouais, pour vérifier qu'elle ne dit pas quelque chose de grossier. Vas-y, vas-y, Reine, dis ce que tu ressens.
Effectivement, que ce soit les hirondelles ou martinets, enfin, il semble bien que la date s'était avancée de quelques jours, mais un printemps comme celui qu'on vient de connaître, bah les arrivées d'oiseaux ont été plutôt tardives.
Plutôt tardives. Donc en fait, est-ce qu'on peut espérer quand même qu'il y ait un changement, une solution naturelle en quelque sorte, dans les retours de migration de ces oiseaux, par exemple, penser talent, où certains penseraient je vais essayer plus tôt, d'autres vont venir à leur date habituelle. Est-ce que ça ne permettrait pas de sauver les populations d'oiseaux, ça ?
Je pense qu'il y a une dynamique.
Une réserve d'adaptabilité, on dit,
oui,
en
entre autres, on a aussi des oiseaux qui commencent à arrêter la migration, par exemple.
Et qui restent directement
alors,
chez
risque,
nous, par
alors
exemple.
Alors, risque et péril. Par exemple, on peut observer quelques individus d'hirondelles en décembre ou janvier.
Ah oui, même sous nos latitudes, ici.
Oui.
Auprès de la Loire, oui, c'est intéressant. Et en fait, comme beaucoup d'oiseaux spécialistes vivent désormais dans des environnements quand même dégradés, il faut le reconnaître, est-ce qu'on peut espérer reconstruire la nature, c'est-à-dire restaurer les habitats ou les lieux propices à la reproduction des animaux ?
Alors ça, c'est un très très gros travail. Mais j'avais envie de parler d'un autre facteur, puisqu'on voit bien, oui, qu'aujourd'hui, c'est la qualité des espaces agricoles qui pêche, puisque ce sont les spécialistes agricoles, des espaces agricoles qui sont le plus en chute. Il ne faut pas qu'on oublie non plus qu'au niveau de notre société, on consomme de plus en plus d'espace, et quand on peut dire... Le volume de la surface agricole a beaucoup chuté ces dernières décennies. Donc, non seulement les espaces agricoles sont de moins bonne qualité, mais en plus, il y en a moins.
Ce qui, évidemment, complique le retour des migrateurs. Ça fait que les migrateurs sont peut-être plus en danger que les autres, alors, du coup. Reine du pan ou pas.
Moi, je pense que, enfin, là, pour nos oiseaux communs, migrateurs ou pas migrateurs, ils sont tous en danger.
Le problème est à peu près le même, ouais. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les espèces bénéficient d'espaces qui soient mieux protégés? Il y a déjà quand même pas mal d'espaces protégés en France.
Là, il faut qu'il y ait un retournement complet, enfin, du modèle agricole, parce que là, on court dans le mur, en fait.
Oui. On a parlé, par exemple, de zones tampons près des rivières pour empêcher les agriculteurs de s'étendre jusqu'au bord de la rivière, mais de ménager un espace. Pour l'instant, c'est respecté.
Je ne suis pas sûre que ça soit toujours respecté.
Tu interviens quand tu veux, hein, Jean-Claude.
Ouais. Je dirais que c'est à une toute petite échelle, parce qu'on a parlé, évoqué un peu l'agriculture biologique. Donc, c'est une des solutions, puisque ça permet à la biodiversité de revenir. Et donc, la LPO en joue en particulier, mais c'est vrai des autres groupes de LPO. Et au niveau régional, on essaie de travailler de plus en plus avec les agriculteurs. Hein. Il y a des réseaux qui se forment, où il y a des échanges entre naturalistes et professionnels agricoles, de façon à susciter de nouveaux modèles. Hein. On a même quelque chose qui a été, c'est une marque, je crois qu'on dit, paysans de nature. Mmh. Qui sont de vrais naturalistes paysans. Qu'est-ce qu'on peut, par rapport aux épandages de pesticides
Pour rester sur la problématique des oiseaux qui vivent à l'étranger un certain nombre de mois de l'année, est-ce que la reconstitution de couloirs de migration les favoriserait? Est-ce qu'ils peuvent être arrêtés aussi dans leur migration? Jean-Claude, tout à l'heure, tu nous disais un petit mot sur cette problématique des oiseaux qui vivent en Afrique du Nord et qui sont plus ou moins difficile pour eux de revenir s'installer après en Europe.
Ben, je voyais récemment un document sur la désertification du sud du Sahara avec une progression de je ne sais plus combien de centaines de kilomètres vers le sud, avec la disparition de tout un ensemble de cortèges d'oasis. Hein. Il est certain que c'était des lieux de halte qui ont disparu pour de nombreux migrateurs. Donc là aussi, c'est certainement l'évolution climatique globale.
Oui, parce que les oiseaux ne font pas le trajet Afrique-France en une seule fois. Quoi. Les Boeing en sont capables, ou peut-être
oui.
Les Airbus. Mais
il y a des espèces performantes, mais beaucoup de passereaux sont obligés de faire des haltes, effectivement. Ils n'ont pas des capacités volières énormes.
Et là, dans certains pays, il y a aussi des filets qui les arrêtent.
Alors oui, ça c'est sûr. Sur tout le pourtour méridional de la Méditerranée, c'est effrayant. L'hécatombe qui est réalisée donc par des piégeurs, en particulier en Égypte, hein, où il y a des centaines de kilomètres de filets qui sont tendus pour capturer...
Des centaines de kilomètres de filets tendus pour arrêter les oiseaux.
Capturés, quoi.
Et qu'est-ce qu'ils cherchent à capturer?
Les chiffres sont énormes. C'est principalement des oiseaux comme les cailles. Hein.
Qui sont visés.
Voilà. Mais bon, il y a une fraction importante des populations de Raldegnais d'Europe centrale qui sont capturées de la même façon que les cailles. Hein. Or, c'est une espèce qui se porte déjà mal
très
au
mal,
niveau
ouais.
International. Hein. Et puis sinon, il y a quand même pas mal d'autres espèces qui sont capturées accidentellement, je dirais, sont pas forcément remises en liberté non plus, quoi.
Oui. Donc là, c'est un problème de réglementation, principalement, et d'accord avec des pays du Sud.
Oui, c'est complexe, oui.
Mais il y aurait aussi d'autres possibilités. On entend souvent parler de réintroduction des espèces. Est-ce que c'est une piste à suivre, ça?
Alors, réintroduction des espèces, oui. Dans certains cas, il y a eu des réalisations au niveau mondial. Hein. Oui. Voilà, il n'y a qu'à regarder simplement ce que la France a réussi, effectivement, et de manière pionnière, avec la réimplantation du vautour fauve dans les Causses, depuis dans les Alpes, avec le gypaète barbu. Effectivement, si on s'en donne les moyens, pour un certain nombre d'espèces, si... le milieu a toujours conservé une certaine capacité d'accueil à l'écart de ces espèces. Là, effectivement, il y a des choses qui sont tout à fait possibles.
Oui, là, c'était plus facile aussi parce qu'on avait identifié le facteur de régression de ces oiseaux qui était le manque tout simplement de cadavres disponibles. Et donc, il suffisait de restaurer en quelque sorte ces apports alimentaires pour que ces oiseaux puissent survivre. En revanche, on a peut-être aussi quand même des bonnes choses qui se passent, outre la capacité de résilience des hirondelles, qui peuvent être capables de changer leur date de venue en France. Il y a aussi peut-être en France de nouvelles espèces qui peuvent arriver, des espèces plus méridionales, qui peuvent arriver et coloniser la France. Ça nous ferait une belle biodiversité supplémentaire.
Oui, bah c'est quelque chose, effectivement, qu'on observe. Hein. Je citerai un exemple qui est un des plus spectaculaires au niveau mondial d'expansion, c'est celui du héron garde-bœuf. Un petit héron qui a l'habitude de fréquenter les troupeaux de bovins pour profiter des insectes qui sont déplacés par les mouvements des troupeaux. Hein. Bon, c'est une espèce qui est d'origine d'Afrique tropicale. Hein. Grâce aux alizés, elle a colonisé l'Amérique centrale, le sud de l'Amérique du Nord. Hein. Elle est passée en Europe à la fin du 19e siècle. Le sud de la France a été atteint dans les années 50. Elle niche depuis 2004 en Maine-et-Loire et elle s'y répand.
Oui, c'est le petit héron blanc avec des pattes jaunes là, qu'on voit près des bœufs. Oui. Tout à fait une espèce assez intéressante en plus. Bon, après, c'est vrai que...
Mais c'est une espèce qui avait des atouts, hein, parce que c'est une espèce qui vit en groupe, qui sait prospecter des secteurs favorables pour son alimentation. Et certainement, son grégarisme, c'est un atout majeur dans la dynamique de cette espèce.
Le héron garde-bœuf cache la dynamique des fauvettes et autres petites alouettes. Et quelle sera ta conclusion, alors, Jean-Claude Baudouin, sur ce déclin des oiseaux communs ?
Ben, sur le déclin des oiseaux communs, moi, j'aurais tendance surtout à insister sur ce qui nous paraît urgent de remédier, mais sans pouvoir, disons, envisager des solutions simples à mettre en place, c'est le déclin des espèces des plaines agricoles, quoi. Je reprendrai un peu ce que citait, ce que signalait Vincent Bretagnol quand il a été interrogé sur ce sujet, chercheur donc du CNRS à Chizé, dans le sud des Deux-Sèvres, hein, où il a travaillé sur des surfaces considérables de grandes plaines agricoles. Hein. Pour lui, il faudrait changer les pratiques sur des surfaces considérables si on veut obtenir des résultats. Hein. Mais il faut surtout changer de modèle agricole hein, si on veut vraiment enrayer le déclin de la biodiversité dans les campagnes. Hein. Et ça, il faut le faire avec les agriculteurs.
Eh bien, merci à vous, Reine Dupas et Jean-Claude Baudouin, pour cette analyse d'une situation ornithologique hors du commun. Nous avons passé, je crois, un excellent moment ensemble. Et je pense que vous avez pu nous éclairer davantage sur cette régression des oiseaux communs. J'espère que vous pourrez continuer votre travail essentiel dans la nature pour mieux comprendre notre avenir à nous et pour lutter contre l'agro-industrie qui se prolonge encore. Nous quittons les oiseaux et leur grande aventure évolutive pour un monde déjà bien transformé. Thank you.
Vous écoutiez El Condor Pasa, le retour du condor, une musique rebelle interprétée par Los Inca.
Et si demain tous les oiseaux devaient mourir, si nos campagnes ne bourdonnaient plus de l'activité de la nature? Voilà le triste avenir que le capitalisme industriel propose à notre monde. Perturbant ces maillons essentiels des réseaux écologiques, les pesticides jouent à pile ou face le futur même de notre planète. Les agro-industries qui utilisent des tonnes d'insecticides, de tonnes d'herbicides, continuent d'affirmer que ces poisons sont nécessaires à leur production. C'est aussi que le capitalisme a toujours progressé avec un darwinisme simple et répété. On détruit tout ce qui fait concurrence aux revenus. Sans état d'âme, l'utilisation des pesticides et l'exploitation du travail des humains se poursuit en même temps. Nous ne sommes pas responsables des choix marchands. Et voilà désormais qu'ils exploitent le carbone fossile, formé il y a des millions d'années sous terre, pour l'envoyer depuis quelques décennies dans notre atmosphère. Oh, il ne faut pas longtemps pour comprendre que ce dioxyde de carbone empoisonne aujourd'hui notre air. Il suffit de 0,6-0,7% de plus de ce gaz pour élever la température du globe. Mais les marchands n'en ont rien à faire. J'entendais il y a quelque temps un politique se navrer que certains actionnaires d'une firme agro-industrielle bien connue allaient perdre leur portefeuille d'actions, réduite à néant par les réductions de l'usage des produits chimiques imposés par les États. Que deviendraient-ils ces pauvres actionnaires ruinés, se lamentaient-ils? Eh bien, la réponse est simple. Ils redeviendraient tout bêtement des prolétaires, comme nous, obligés de se salarier pour survivre. Car ces gens-là finissent là où nous commençons. Mais nous le savons, un autre monde est encore possible. Un monde libertaire où nous ne vivrons nos passions humaines sans personne pour nous les marchander. Et l'avenir sera noir ou ne sera pas.
Auditrices, auditeurs intrépides, vous pouvez nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, sens libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois à 18h sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et les idéologies qui l'accompagnent. Nous recevions aujourd'hui Reine Dupas et Jean-Claude Baudouin de la LPO Anjou. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction est d'Hicham Chahidi et nous allons conclure sur Les oiseaux de passage par Brassens.
Aux vies heureuses des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis née. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir. C'est-à-dire que honque, elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous sont ainsi faits, vivre la même vie, toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir, ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres, et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant: oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe. Où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol? Regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent. Et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux. Mourra, ces pauvres gens ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, genoux édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux.